a dream.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Une Amérique qui est maintenant multiculturelle, multiforme.
One nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all.
Bien Nathalie, madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Jacques Aristide dans la capitale américaine. Ravi de vous retrouver dans l'Amérique et vous. Coup de projecteur ce vendredi sur le déclin des inscriptions d'étudiants internationaux dans les universités américaines. Quelles en sont les raisons? Quel impact sur ces universités? Les étudiants africains sont-ils parmi ceux les moins attirés par les États-Unis? Un sujet que nous allons décortiquer avec nos invités. En tout cas, le nombre d'étudiants étrangers aux États-Unis a d'ores et déjà franchi la barre du million, mais les chiffres officiels indiquent un recul du nombre d'inscrits aux universités américaines depuis ces deux dernières années. De mars l'année dernière à mars cette année, il y a eu une baisse de 2,7% d'après des données basées sur les visas d'étudiants publiées par le service de l'immigration et des contrôles douaniers. Lionel Gaïma pour nous planter le décor.
Ce n'est un secret pour personne. Comparé à d'autres pays, le coût de l'enseignement supérieur aux États-Unis est beaucoup plus élevé.
Les frais de scolarité ne sont pas le seul facteur dissuasif. Une étude de l'Institut international pour l'éducation met aussi en évidence la perception de la criminalité aux États-Unis et la rhétorique sur l'immigration.
En fait, c'est devenu ma principale préoccupation. Mais je suis d'origine indonésienne, asiatique et musulmane. Mon apparence est différente. Les gens voient que je viens d'un autre pays. C'est une situation difficile pour moi, même si au début je pensais que ce n'était pas un problème, croyant que l'Amérique était ouverte.
D'autres pays comme le Canada sont conçus comme plus accueillants et cherchent à attirer des étudiants de Chine, de l'Inde, des Philippines, du Vietnam et du Pakistan en leur accordant des visas qui sont traités en 3 semaines.
D'après nos statistiques, nous avons constaté que ces pays sont les plus intéressés à envoyer des étudiants au Canada.
Et ceux qui ont étudié au Canada trouvent que leur immigration a porté des fruits.
Après mon diplôme de premier cycle, j'ai obtenu un permis de travail de 3 ans, également appelé permis de travail du 3e cycle, et j'ai postulé pour un emploi. J'ai été recruté dans un cabinet comptable, j'ai travaillé pendant 1 an à plein temps, ce qui m'a permis de faire une demande de carte de résident permanent.
La Nouvelle-Zélande aussi, avec 130 000 étudiants étrangers, renforce sa stratégie de recrutement. Malgré cette concurrence, certains experts estiment que les États-Unis peuvent redevenir le premier choix pour les étudiants étrangers.
L'un des aspects fantastiques du paysage mondial de l'enseignement supérieur est que tout pays peut devenir une destination de choix. Les États-Unis, par exemple, pourraient redevenir une destination de choix et dominer pendant un certain temps.
Il est l'heure maintenant d'accueillir nos invités. Jean-Pierre Karigeye, chercheur et universitaire rwandais. Il enseigne à Dickinson College dans l'État américain de la Pennsylvanie, d'où il nous rejoint au téléphone. Et professeur Emilio Viano de l'American University, qui lui est en ligne de Washington. Et une fois n'est pas coutume, un frère et une sœur, Yannick et Marie-Nelly Mbongo, originaires de la République démocratique du Congo. L'un vient de terminer ses études et l'autre en voie de s'enrôler. Marie-Nelly est en Californie et Yannick dans le Kentucky. Jean-Pierre Karigeye, je commence par vous. Pourquoi les États-Unis sont-ils en train de perdre leur attrait aux yeux des étudiants étrangers, d'après vous?
Je crois qu'il y a plusieurs raisons. Il y a entre autres les facteurs politiques, donc avec la politique, les discours aussi du président Trump. Donc ça a un effet évident. Par exemple, cela a comme conséquence la bonne obtention de visa. Donc ça devient très difficile d'obtenir un visa. Et surtout, certaines populations ou des étudiants de certains pays. Il y a aussi peut-être, je crois que ça a été souligné, la durée, par exemple, de visa. À l'époque, quand un étudiant obtenait, par exemple, son visa pour venir étudier aux États-Unis, il, été clairement indiqué sur son passeport que c'est pendant la durée des études, l'IS. C'est ce qui était écrit. Et que maintenant, avec Trump, donc, il voudrait limiter ça. Donc, ça aussi a un impact. Bon, mais aussi, les universités ne reçoivent pas et ne reçoivent plus, et surtout beaucoup de subventions de la part de l'État. Et donc, les étudiants qui viennent, et comme les études coûtent cher, donc il y a des étudiants qui n'obtiennent pas facilement des bourses d'études.
Les étudiants africains sont-ils parmi les plus touchés par de tels facteurs ?
Pardon ?
Les étudiants africains sont-ils parmi les plus affectés?
Oui, certainement, certainement. Parce qu'il y a beaucoup d'étudiants asiatiques qui viennent aux États-Unis, par exemple, du Japon, de la Chine, et qui ont des moyens d'étudier dans des universités américaines privées. Oui, les étudiants africains, certainement, ils sont touchés par ça. Et je connais une des universités, disons la mienne, par exemple, où les étudiants étrangers qui sont admis payent 48%. Et ça devient de plus en plus difficile de tenir cela avec la crise que les universités sont en train de traverser. Donc je crois que les facteurs politiques jouent énormément. Mais on ne pourrait peut-être pas aussi négliger d'autres facteurs. C'est que de plus en plus, les opportunités, il n'y en a pas qu'aux États-Unis. Donc il y a ceux qui vont en Asie, il y a ceux qui vont en Inde, il y a ceux qui, et même au niveau de l'Afrique, plusieurs universités, entre autres américaines et d'autres européennes, et qui s'installent de plus en plus dans d'autres pays africains. Et il y a aussi des cours online conçus. Donc on peut avoir un diplôme sans pouvoir
se déplacer. Ça, c'est vrai. Alors, Emilio Viano, je vais m'adresser maintenant à Emilio Viano. Je m'excuse de vous interrompre. Alors, Emilio Viano, pour beaucoup d'universités américaines, les frais d'inscription acquittés par les étudiants étrangers représentent une manne indispensable. Que signifie ce fléchissement, ce recul du nombre d'étudiants étrangers pour les universités américaines, Emilio Viano ?
C'est vrai qu'aux États-Unis, les institutions privées, particulièrement, ont clairement choisi encore un prix très élevé pour s'inscrire. On doit distinguer de quel type d'université on parle. Les plus prestigieuses peuvent continuer à gérer de nombreuses applications, même à des prix élevés. Mais on peut bien penser que les moins exigeants en recherche et par conséquent moins prestigieuses pourraient avoir du mal à survivre s'il existe effectivement une sorte de fuite vers la qualité des étudiants internationaux. Ainsi que, il dépend de quel type d'université on parle. Harvard, Yale, Pennsylvania, etc., les grandes universités bien connues peuvent demander plus d'argent et ont toujours beaucoup de monde qui désire d'étudier là. Les autres qui marchaient assez bien jusqu'à récemment ont plus de difficultés maintenant. Et le même naturellement avec les universités d'État qui n'entrent pas si bien dans cette considération. Parce que par une université d'État, un étranger n'est pas seulement quelqu'un de la Chine, c'est quelqu'un de l'État voisin. Et ça, c'est quelque chose qui est très difficile de comprendre peut-être à l'étranger. C'est-à-dire, l'Université de la Virginie, par exemple, a un prix pour les résidents de la Virginie et un prix beaucoup plus cher pour un étudiant de la Virginie occidentale, qui est tout à fait proche. Et ils ont une autre considération pour eux, naturellement, quelquefois, les étudiants étrangers aider à donner ce que la législature locale avait coupé du budget des universités. C'est-à-dire, il était une façon de compenser la perte de fonds par le gouvernement local de cet État particulier.
Marinelli Mbongo, voilà, on a entendu, on parle beaucoup du coût exorbitant des études dans les universités américaines et de la politique de visa également. Alors vous-même, quels sont les obstacles que vous avez dû surmonter pour pouvoir venir étudier ici aux États-Unis, en Californie ?
Merci pour la parole. En parlant d'inscription, en fait, ce sont mes frères qui sont occupés de la démarche, en fait. Et moi, j'ai juste eu à aller pour l'interview, donc c'est mon frère qui vous en dira plus sur ça. Mais je trouve que ça dépend des universités, en fait. Il y a certaines universités qui sont plus facile à s'inscrire que d'autres. En parlant de ça, en fait, je me concentre sur les community colleges, d'où je viens, par exemple. Désolée pour le bruit.
Je
viens, par exemple, au Wyoming. Et, par exemple, ils ne demandent pas beaucoup de choses. Ce que je veux dire par là, c'est que ils peuvent te demander les résultats que tu as eu au secondaire et tout. Mais il y a certaines universités qui demandent beaucoup plus, genre des tests, SAT ou ACT, et qui demandent aussi les preuves de que vous êtes capable de parler anglais et tout. Donc ça dépend des requis, mais en parlant des démarches, j'ai presque rien à faire. Mais en ce moment, je suis en train de faire des démarches pour mon transfert.
Oui.
Donc oui, c'est ça.
Ok. En tout cas, vous avez choisi un état là où il fait pas mal en termes de temps, je veux dire. Très bien pour vous.
Oui, c'est ça exactement. Pour les inscriptions, il faut être un peu plus malin, en fait. Il faut choisir les états où il n'y a pas vraiment d'étudiants, où ce sera un peu plus facile, parce que c'est dans ces états où le coût est moins cher comparé aux autres et il y a moins de gens qui y vont. Du coup, ouais. Attention à ça aussi.
Oui, je vais parler à votre frère maintenant. Alors, Yannick Bongo, d'après The Wall Street Journal, les étudiants étrangers ne se sentent plus les bienvenus dans certains États. Yannick, en tant qu'ancien étudiant international, quelle a été votre expérience? Comment avez-vous été accueilli sur les campus que vous avez fréquentés?
Oui, alors ce problème, ça doit être un problème très récent, parce que moi, je suis arrivé aux États-Unis, évidemment, comme étudiant international. C'était en début 2014 et mon expérience, c'était tout à fait le contraire. Mon université de l'époque, l'État, Utah State University, avait très bien arrangé les choses. Donc, mon université de l'époque était au courant du jour, de l'heure à laquelle mon avion atterrissait sur l'aéroport. Et l'université avait chargé des gens, des étudiants qui s'étaient justement présenté comme volontaire pour venir nous prendre à l'aéroport. Et il n'y avait pas que moi d'ailleurs ce jour-là à l'aéroport, il y avait aussi beaucoup d'autres étudiants internationaux et ils nous ont pris, ils nous ont ramenés dans nos chambres d'université. Le lendemain, c'était le jour de l'orientation et pour moi, tout s'était passé en tout cas très bien. Moi, je n'avais vraiment pas du tout expérimenté ce genre de problème.
D'accord, donc pour la demande de visa, par exemple, vous n'avez pas été confronté à un long délai de réponse. N'y a-t-il pas eu des obstacles administratifs qui ont pris du temps?
Alors, en ce qui concerne la demande de visa, premièrement, il faut savoir que cela dépend des pays. Les démarches ne sont pas tout à fait les mêmes dans tous les pays. En tout cas, pour ceux qui applique pour avoir un visa d'études. Dans mon pays, lorsqu'on applique pour un visa, le visa d'études, en fait, vous obtenez votre réponse le lendemain même. Donc, ça dure un jour ou peut-être même deux. Donc, moi, quand j'ai appliqué pour mon visa d'études, la première fois, on m'a refusé et j'ai réintroduit deux semaines après le dossier. Le lendemain, on m'a appelé pour aller récupérer mon passeport avec le visa.
Ah oui.
Ouais.
Ah. Jean-Pierre Carrégué, nous parlions de la cherté des études aux États-Unis tout à l'heure, mais en France, le gouvernement vient d'augmenter les droits d'inscription universitaire. En fait, les a multipliés par 10 pour les non-européens. Le gouvernement français veut attirer apparemment davantage d'élèves issus des pays émergents non-africains. Les étudiants africains représentaient près de la moitié des étudiants étrangers en France. Mais d'après la conférence des présidents d'université du pays, la baisse des candidatures issues du continent africain serait de l'ordre de 30 à 50% pour la rentrée 2019. Ce n'est donc pas un problème uniquement américain, n'est-ce pas?
Bon, oui, c'est vrai, c'est pas uniquement un problème américain, mais aussi ce qu'il faudra ajouter, le système éducatif en France est différent, ou plutôt le financement des universités en France est différent et des États-Unis. C'est vrai qu'il y a des écoles publiques aux États-Unis, des universités publiques aux États-Unis, mais en général, quand on regarde les budgets, par exemple, des universités privé dans le système américain, mais c'est vraiment costaud. Et qu'en France, par contre, plusieurs universités reçoivent beaucoup d'aides ou des subsides de la part de l'État. Et donc, je me rappelle, il y a quelques années, j'étais en France et une des universités, j'étais à l'École normale supérieure, pareil, et réfléchissait sur le modèle américain et modèle français. Et disait qu'il était très difficile au niveau de la France d'avoir une université qui puisse s'autofinancer. Et donc, en multipliant par 10, comme vous dites, c'est difficile pour les étudiants étrangers et me semble-t-il, ce serait aussi difficile pour les Français eux-mêmes, peu importe les moyens qu'ils ont, parce qu'ils ne sont pas habitués à un système ou à un système éducatif où ils doivent eux-mêmes contribuer. Et penser aux grèves qu'il y a et chaque fois qu'on pense à ajouter, à revoir, par exemple, les frais des scolarités. Donc, oui, c'est vrai, ça va affecter beaucoup de pays, surtout africains, où, pour la simple raison, c'est que beaucoup d'Africains qui vont étudier en France, beaucoup, mais pas tous, reçoivent une aide de la part du gouvernement français. En général, c'est entre les deux gouvernements, un des gouvernements africains et la France. Donc, cela, certainement, et ça pourra affecter. En fait.
Pas mal de commentaires sur...
Ils ont le droit de choisir le système qu'ils veulent, n'est-ce pas ?
Alors, je dois dire qu'il y a eu pas mal de commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. L'un d'eux, Baudelaire Hachou, nul ne doute les diplômes obtenus dans les universités américaines. Étudier là-bas est le rêve de bon nombre de jeunes Africains, mais l'administration Trump leur complique l'accès à ces universités. De même, les propos du président Trump n'encouragent pas les étudiants africains à s'aventurer vers les États-Unis. Les conséquences sont partagées. Allez, maintenant en direction Luanda en Angola, où nous attend au téléphone Aniceto Mabiala pour un commentaire, une question. Aniceto, bonsoir.
Bonsoir, messieurs.
L'antenne est à vous. Allez-y, Aniceto. Allô. On vous écoute. Votre commentaire, rapidement.
Oui, je voulais tout juste réagir en ce qui concerne le sujet. J'allais dire, en ce qui concerne l'Afrique, cela pourrait être dû à la cherté des universités américaines. Car il faut avoir des moyens ou des sous pour étudier aux États-Unis d'Amérique dans de telles universités. Il serait souhaitable que ces universités revoient leur politique en matière de frais académiques si elles veulent vraiment aider l'Afrique. On a l'envie de faire, mais les moyens nous manquent. Et je souhaiterais que le gouvernement américain ou l'administration Trump puisse vraiment aider ceux-là qui veulent étudier dans leurs universités en facilitant aussi les visas d'études. Il ne faut vraiment pas croire que tout le monde n'a pas envie d'étudier aux États-Unis. On a l'envie de le faire, mais ce sont les moyens. Des fois, c'est défaut. Il serait souhaitable que le gouvernement américain puisse vraiment aider ceux-là qui ont l'envie d'avoir le visa, obtenir le visa pour étudier là-bas.
Merci bien, Aniceto Mabiala. Vous étiez au téléphone en ligne de Luanda. Emilio Viano, un commentaire, une réaction ?
On peut dire qu'il y a des explications. Il y a des preuves solides d'une légère récession parmi les nombres d'étudiants internationaux, principalement concentrés dans des établissements moins axés sur la recherche. Il y a deux explications non exclusives. La première est une diminution apparente de l'appel de l'Amérique dans de nombreux pays. Et plus concrètement, un régime de visas plus sévère aux États-Unis. Et la situation des visas peut être placée carrément au pied de l'administration Trump. Le président peut également porter une part de responsabilité dans la baisse globale de l'attractivité de l'Amérique. Et naturellement, la seconde, et nous avons déjà parlé de ça, est le frais de scolarité élevé. Et ces deux explications ont du mérite. On a bien exploité les étudiants étrangers ici aux États-Unis. C'est le Royaume-Uni qui a commencé à faire ça il y a peut-être dans les années 1980. Après, l'Australie, elle a commencé dans les années 1990 et les États-Unis se sont joints plus tard. Les dernières à se joindre ont été les universités publiques aux États-Unis qui ont cherché une façon de compenser pour les fonds publics qui étaient coupés et avaient besoin de plus d'argent. Mais on le voit même dans d'autres situations. Par exemple, l'État de New York est bien connu pour aider à des étudiants de droit étrangers d'obtenir sa licence d'être avocat aux États-Unis. Il y a 10 ans, ça coûtait $200-$250 pour s'inscrire à cet examen. Aujourd'hui, c'est presque 750-800 $ pour s'inscrire. Et c'est clair que c'est une mesure qu'on a décidé de prendre pour naturellement obtenir de l'argent. Il y a cette exploitation, mais je devrais dire une autre chose de laquelle on devrait parler, c'est-à-dire le changement démographique dans certains pays. Par exemple, dans la Chine, il y a moins de population, il y a des meilleures universités, il y a plus d'aide publique. C'est-à-dire qu'il y a d'autres facteurs dehors des États-Unis, et particulièrement dans les pays les plus importants, plus les États-Unis, que sont la Chine, l'Inde, et l'Arabie Saoudite et le Vietnam. Et particulièrement en Chine, il y a une baisse de population. Et pour ça aussi, il y a moins d'étudiants étrangers, naturellement.
Oui. En même temps, professeur Vianu, il y a certains Américains qui estiment que les universités du pays devraient être réservées aux étudiants américains, surtout si elles reçoivent des fonds publics. Partagez-vous cet avis?
Oui, si, ça c'est clair. Il est réservé dans la majorité pour les universités publiques. Par exemple, ici en Virginie, près de Washington, il y a beaucoup de monde, particulièrement dans la Virginie du Nord, qui sont très, très fâchés avec l'Université de la Virginie à Charlottesville parce qu'il n'y a pas de place pour tous les très, très excellents étudiants d'ici, du nord de la Virginie, qui veulent aller étudier là. Et naturellement, ils ne veulent pas qu'il y ait des places pour des étudiants étrangers, même s'ils sont étrangers d'un État voisin, mais encore plus s'ils sont de l'extérieur. C'est une lutte continue dans cet endroit, mais les universités jusqu'à maintenant ont favori un certain nombre d'étudiants étrangers, soit américains, de l'État voisin, soit de l'extérieur, parce qu'ils payent beaucoup plus et ils donnent plus d'argent pour continuer l'activité de l'université. C'est une lutte entre devons-nous payer plus pour l'université de notre État ou est-ce que nous pouvons payer moins et ce qui manque est donné par les étrangers, soit américains que de l'extérieur.
Alors, pour certains observateurs, le leadership des États-Unis est directement lié à leur capacité à attirer les meilleurs talents mondiaux, notamment dans le secteur clé des technologies. Rendre les universités américaines moins attrayantes pour les étudiants étrangers, c'est fragiliser le pays. Jean-Pierre Carrégué, vous êtes d'accord? Partagez-vous cet avis?
Bon, je crois que un des aspects, c'est-à-dire un défavorisant et les étudiants étrangers, pas défavorisant, mais plutôt ne les attirant pas. Donc, en n'attirant pas les étudiants étrangers, ce qui arrive, certainement, c'est une mise en cause même de ce qu'on appelle le rêve américain et qui a beaucoup contribué même à la construction des États-Unis. C'est-à-dire que ça ne profite pas seulement à l'individu ou à l'étranger qui vient et vivre et étudier aux États-Unis, mais aussi et sa propre contribution. Et on sait comment les étrangers, ce qu'on appelle étrangers, ou les immigrés, ont dû contribuer à l'économie et au savoir aussi, à la production des savoirs aux États-Unis. Là, c'est un fait. Mais et je crois que comme beaucoup l'ont dit ici tout à l'heure, il y a, c'est vrai, un facteur Trump qui est très important, mais je crois qu'on ne devrait pas non plus négliger
Il y a des nouvelles perspectives qui se passent au niveau de l'éducation, liées d'abord à la technologie, mais aussi cette même technologie donc, qui permet à ce qu'on puisse suivre des cours n'importe où dans le monde. Mais aussi le fait que l'Occident, comme je l'ai dit au début, n'est plus nécessairement au centre de l'éducation.
Voilà. Jean-Pierre Carré-Gaillé, je vous remercie. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette édition de votre magazine AEV, l'Amérique et vous. Un grand merci à vous de l'avoir suivi. Je remercie nos invités, Jean-Pierre Carré-Gaillé, chercheur et universitaire rwandais, professeur Emilio Viano de l'American University, et Yannick et Marinuel Mongo. Voilà, merci à chers amis fidèles de la VOA. Cheikh Tiro était à la réalisation, c'était Jacques Aristide au micro. Nous vous souhaitons une très bonne soirée et un excellent week-end. À très bientôt.